qu'Annette commence à connaître et puisse imaginer Fridière, alors que lui n'avait pas à tout savoir de Bailleul. Au contraire, Bailleul serait quitté, laissé derrière. On fuirait Bailleul. Même si on en parlerait un peu la prochaine fois, on se montrerait des photos. Il l'avait dit, chacun, des photos pour faire voir trois ou quatre pas des albums entiers. Mais de Bailleul, il n'y aurait presque rien à savoir. Lui, Paul, ne serait pas curieux. Annette ne passerait pas d'examen. La question de Bailleul ne serait pas examinée. Le chapitre de Bailleul resterait clos. Dans le train, entre Nevers et Paris, entre Paris et Lille, Lille et Bailleul, Annette, sur qui avait chaque fois fondu dans les fauteuils rayés d'un sommeil massif, sépulcral, Annette, éveillée, revenue au monde du Nord, mangée de nuit derrière la vitre du wagon, avait eu la surprise des mains de Paul, inscrite, devenue en quelques heures proches et souhaitée. Paul payait l'abonnement à la montagne. Le journal, apporté en fin de matinée par le facteur, circulait entre les habitants de la maison, selon un protocole sanctifié par l'usage. L'oncle aîné l'ouvrait avant le repas, les nouvelles locales, et en premier lieu les avis d'obsèques, faisant chaque jour l'objet autour de la table, entre deux goulets de nourriture, d'une glosse partagée plus ou moins rudimentaire selon que le défunt ou la défunte avait vécu dans le canton, dans la commune, au bourg, voire dans le hameau même, les incontournables seraient honorés d'une participation aux funérailles qui incombait le plus souvent à l'oncle aîné, parfois flanqué de Nicole, Paul et l'oncle puiné, rétifs aux enterrements, ne consentait à s'extraire qu'en cas de décès contraire aux lois de la nature ou affectant une personne durablement connue. Le fils des Vidal de Soulages, écrasé à 22 ans par son tracteur neuf, renversé sur une pente 100 fois pratiquée en d'usuelles circonstances par lui et son père, avait ainsi mobilisé les 4 de Fridière alignés sur le même banc, gorge nouée, mains croisées, interdits assommés par l'énormité du malheur. Après le repas de midi, au moment du café, l'oncle puiné s'emparait à son tour du journal et parcourait d'un œil furtif les premières et dernières pages, la météo et les programmes de la télé. Venait alors la sieste des oncles retirés dans leurs quartiers respectifs, et l'heure sacrée de Nicole, qui, ayant débarrassé la table de la vaisselle qu'elle expédiait promptement, écartelait la montagne dans toute son envergure sur la toile cirée, et juché à genoux sur le banc, entreprenait une dissection exhaustive du journal, quand bien même elle en avait, du temps des lectures à pointer chez la mini-cathée, défloré 3 heures plus tôt les pages consacrées à la France et au monde, Nicole suivait un ordre capricieux, chiffonnait le papier rassemblé en monceaux, lissait le tout d'une main rageuse, soulignait de grognements sonores tel ou tel titre d'article ou passage, sans que l'on sût jamais ce qui motivait ces bruyantes embardées. Elle appelait ça éplucher la montagne. C'était le rite de Nicole, qui se targuait d'être la seule dans cette maison à se tenir un peu au courant d'autre chose que des nouvelles locales et de la soupe servie par le journal télévisé. Son exécration, entière autant que mystérieuse, des informations diffusées par la télévision, n'avait d'égal que sa fidélité fanatique à certaines émissions, dont, au premier chef, l'immarcessible magazine du vendredi soir, Thalassa, auquel les oncles convertis par elle voient une sorte de culte confinant à l'idolâtrie, pratique d'autant plus incongrue que Nicole, pas plus que les oncles, n'avait jamais vu la mer et n'en manifestait ni le désir ni le regret. Après le repas, Paul consacrait sa soirée au journal qui lui était enfin concédé dans un état plus ou moins critique. Consécutif aux emportements de sa sœur, stoïque, voire amusée, il empoignait le tas ébouriffé, rendait aux pages leur ordre premier et prenait à son tour connaissance, à la muette, des ordinaires convulsions, proches ou lointaines, tandis qu'à l'autre bout de la table, la télévision déversait son babil coloré. Ensuite, à l'heure du coucher, le journal était abandonné par Paul sur le buffet jusqu'au lendemain matin où l'oncle aîné, le premier levé, le remiserait dans le débarras sur la pile des papiers à brûler. Le journal ne montait pas à l'étage, il était d'en bas, de toute éternité. L'arrivée d'Annette et l'établissement dans la maison d'un second foyer de 3 personnes changeaient aussi la donne sur ce point. Les oncles et Nicole prendraient-ils un abonnement pour le bas, Paul conservant le sien pour le haut. 2 exemplaires du même journal dans une seule maison, la mesure, radicale, spectaculaire, parut à Paul singulière et coûteuse. Sans rien en dire, il songea que, du moins dans un premier temps, Annette manifesterait sans doute peu d'intérêt pour un journal dont la portée locale, essentielle à des yeux indigènes, lui échapperait forcément. Il n'avait cependant pas pensé aux mots croisés dont il ne savait pas Annette Ferru. Les 2 premiers mois passèrent sans que la question fût tranchée. On bricola, on improvisa. Et Paul, happé par les besognes impérieuses du bref été, éluda le sujet. Septembre, le pays rendu à lui-même dans le silence roux des soirs et la rentrée d'Éric au collège installèrent Annette et son fils au regard des autochtones dans une possible durée. Ils étaient là et ils pouvaient rester. Encore faudrait-il passer l'hiver. Un homme, Paul, le neveu, le frère, avait certes des besoins, mais tout ne se résumait pas à cette affaire des corps mélangés. Comment s'accommoderaient-ils à la longue, les deux, et pas seulement au lit? On n'en savait rien, on n'en saurait rien, on n'en dirait rien. On secourait la tête, on oserait un demi-sourire entre soi, en bas à table, devant la chaise vide. On remarqua, à la mi-septembre, que désormais Paul emportait le journal chaque soir, et qu'il le déposait lui-même, quelques jours plus tard, dans le